Voilà, alors Jean-Pierre Petit, comme je vous le disais, qui est directeur de recherche au CNRS, est devant moi. Il est l'auteur d'un livre nouveauté publié chez Albin Michel, qui s'appelle « Enquête sur les extraterrestres qui sont déjà parmi nous ». Le mystère des humites. Il a déjà écrit un livre qui s'appelle Enquête sur les ovnis. Comme je vous le disais, c'est un monsieur très sérieux qui a toute la crédibilité d'un vrai scientifique. Mais en même temps, Jean-Pierre Petit, je pense que souvent dans les milieux scientifiques et auprès des journalistes, on vous regarde avec un drôle d'œil quand vous arrivez et que vous vous mettez à parler des humites.
Bon, ben, si vous voulez, quand j'écris un livre comme ça, y a des gens qui ont dit, mais vous allez perdre toute crédibilité. Or, la crédibilité, pour la perdre, il faut que quelqu'un vous la fasse perdre. C'est-à-dire que si je dois perdre ma crédibilité, il faut qu'il y ait un scientifique qui écrive un article dans un journal et qui mette son nom en dessous. Et on attend ça avec impatience. Je veux dire que là, je vais faire des conférences ces jours-ci au Québec. Il faut qu'il y ait des scientifiques qui viennent apporter la contradiction. S'il n'y a pas de contradiction, c'est qu'il n'y a pas de discrédit.
Oui, mais en fait, il est certainement normal aussi que des hommes scientifiques comme vous s'intéressent à des extraterrestres. Pourquoi est-ce qu'on dirait a priori qu'ils n'existent pas? Il me semble que c'est une question qu'on peut se poser aussi. C'est une question légitime de se demander si les extraterrestres existent.
Mais vous avez une position scientifique officielle qui consiste à dire la vie extraterrestre, ça existe. Maintenant, il n'y a plus de scientifiques qui disent on est tout seul dans l'univers.
Il n'y a plus personne qui dit ça?
Non, depuis quelques années, on a un peu arrivé à une sorte de consensus là-dessus. Alors, il y en a qui disent, vous savez, on écoute, on n'arrête pas d'écouter, on a mis nos radiotélescopes. Or, si vous faites un petit peu une analyse précise de tout ça, c'est un petit peu comme si vous étiez au Québec avec des micros et que vous les tendiez vers l'Atlantique en disant on va entendre les Bretons parler, quoi, parce que ces systèmes d'écoute sont assez peu performants, il y a peu de chances qu'on obtienne quoi que ce soit. Alors par contre, la troisième possibilité consisterait à dire, il y a peut-être des extraterrestres et ils sont peut-être sur notre sol, il y a peut-être eu des visites. Alors ça, la science est complètement braquée, bloquée contre une chose comme ça, et elle brandit des modèles théoriques en disant la relativité générale ne permet pas de ceci, de ça. Bon, alors moi j'ai fait deux bouquins, surtout dans le premier, Enquête sur les ovnis, j'avais démonté un petit peu ça, en disant comme un juriste, qu'est-ce que ça nous permet de dire? Est-ce que ces modèles mathématiques dont je suis le spécialiste, puisque je suis un spécialiste de relativité générale, cosmologie théorique, est-ce que ça nous permet de prôner une interdiction de ces visites? Pas du tout. Notre science est tout à fait ouverte et capable d'intégrer des choses de genre. Mmh. Et ça, je suis prêt à en discuter avec n'importe quel spécialiste.
Bon, quand on parle d'extraterrestres, c'est une chose très globale. Quand on parle du mythe, on commence déjà à se spécialiser. On dit, bon, les mythes, c'est quand même un peu plus circonscrit que tous les extraterrestres.
Alors ça, c'est une aventure personnelle qui est très amusante. Bon, ce livre-là, je dirais, c'est un petit peu comme une grenade offensive attachée à une tablette de chocolat, quoi. Les gens qui vont le lire vont quand même bien s'amuser, au moins tout le début.
C'est écrit pour tout le monde, hein. C'est pas écrit pour d'autres chercheurs.
Absolument. Et c'est un peu du Spielberg. Moi, j'avoue, j'aime bien m'amuser. Et je veux dire, depuis 15 ans, j'ai une vie scientifique quand même tout à fait passionnante. Parce que j'étais un petit chercheur bien tranquille, comme ça. Puis il y a 15 ans, il y a un ami qui m'a apporté des documents en me disant, regarde, ça traîne un petit peu par là. C'est en espagnol. Ça vient d'Espagne. Ça décrit une espèce de fonctionnement de soucoupe volante. Alors, j'ai trouvé ça assez amusant. Puis c'est signé par des gens qui prétendent venir d'une autre planète. Alors, je dis, amène ça. On va s'amuser un petit peu. Et puis, en regardant un petit peu ce truc, là, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes, et puis ça a duré 15 ans. Je me suis procuré des milliers de pages de documents, et j'ai commencé à en faire du travail scientifique publiable. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que pendant 15 ans, j'ai rien dit.
Vous aviez un peu peur?
Non, j'ai fait un peu comme quelqu'un qui accumule un dossier, et puis à un moment, ça m'a amené une solution de l'équation de la relativité générale. C'est quand même quelque chose d'assez énorme.
Attendez, une solution de l'équation
d'Einstein. Vous savez que la cosmologie, ça se déduit d'une équation, que l'équation d'Einstein, c'est un truc super compliqué. Et si on peut donner un exemple, c'est un peu comme un coffre-fort qui a une combinaison à 10 chiffres. Hein. Et dans ces documents-là, il y avait des renseignements scientifiques qui étaient très précis, qui pourraient être comparables aux 8 premiers chiffres de la combinaison. Bon, pendant pas mal de temps, j'ai un peu trafiqué ce truc-là, et à la fin, le coffre s'ouvre et à l'intérieur, il y a bien ce qui était décrit dans ces textes. Alors, pour ce qui est de ma gouverne personnelle, ma conclusion, c'est que le type qui a donné ces informations scientifiques dans ces documents, il est forcément de très haut niveau. Et ensuite, la probabilité que ce soit un truc monté par des terriens, c'est pas possible.
Parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'ils savent.
Oui, mais surtout, un scientifique, il s'amuse pas pendant 28 années à envoyer des informations à une bande d'Espagnols incapables de les comprendre. C'est complètement absurde.
Mais alors, pourquoi est-ce que même un humite enverrait des... Après, ils savent écrire? Ils ont des machines à écrire? Qu'est-ce qu'ils font?
Ben oui, disons qu'il y a quelques mois, il y a des gens qui voulaient m'inviter à un colloque sur le paranormal. J'ai dit, mais pourquoi voulez-vous que je vienne? Ça arrive par la poste, c'est des coups de téléphone, c'est pas des paranormales.
Il paraît qu'ils ont du mal à parler. On a reçu Laurent Lachance la semaine dernière qui avait lu un autre livre sur encore les mêmes humites, qui s'appelle La conspiration l'observation des étoiles et qui disaient ils ont du mal à parler. Ils nous ressemblent, mais ils parlent pas vraiment bien. Alors ils peuvent pas téléphoner.
Bah écoutez, il y a une chose, c'est qu'on a on a été très mauvais parce qu'on a oublié la cassette où leur voix avait été enregistrée
pour
une émission.
Décevez.
Franchement,
on aurait pu entendre.
Bah écoute, s'il a le magnétophone. Bon, alors donc en 68, il y a une conversation comme celle-là qui a lieu avec quelques phrases et il y a un des Espagnols qui a eu la présence d'esprit de brancher un micro. Alors on entend des gens qui parlent un petit peu avec des voix de canard comme ça. Et je sais pas si Michel Deloire pourra se précipiter
essaye. Peut-être, on va peut-être réussir faire entendre ça.
Alors bon, c'est voilà qui a été enregistré à cette époque. Comme moi, quand j'ai eu la cassette, je me suis dit, ben, on va faire un acte scientifique. Là, si on va l'enregistrer, on va la faire analyser par un labo de phonétique.
Et
dans ma région, j'avais un très bon labo de phonétique. On a fait faire un phonogramme de ce truc-là. Et la réponse, c'est que c'était pas une voix humaine, quoi. Il y avait pas les caractéristiques qui correspondaient
au spectre vocal. Mais avec toute la technologie qu'on a maintenant pour déformer les voix et tout ça.
Tout à fait d'accord. Mais à l'époque où ça avait été produit, on n'avait pas cette technologie-là en 68, vous voyez. Bon. Alors ça, ça constitue pas une preuve en soi, mais à chaque fois qu'on tire une petite ficelle de ce dossier, c'est extrêmement...
Mais alors vos fameux... Ah, les hommes, on va les entendre, on écoute les humides.
Ah d'accord, alors écoutez un peu ces voix, c'est...
Ça ressemble un peu à ma radio en ondes courtes.
Oui, on dirait un type qui parle en se bouchant le nez, mais quand on analyse ça au point de vue phonétique, c'est beaucoup plus complexe.
Qu'est-ce qu'il dit,
ce qui se passe, c'est, l'histoire elle-même est assez amusante. C'est un Espagnol qui avait connu une rencontre du troisième type, et puis il avait eu un appel téléphonique de gens qui avaient un peu ces voix bizarres et qui cherchaient à le rencontrer. Et à ce moment-là, comme il était en contact avec un groupe qui connaissait l'existence de ces types, ils ont dit ça y est, les humides vont venir. Alors au lieu d'avoir deux personnes dans l'appartement, ils étaient 30 à les attendre avec une liste de questions. Et là, ils sont pas venus, ils ont téléphoné en disant non font volen preguntas a sus hermanos, que les gens réunis dans cette maison ne posent pas de questions. Suplicamos perdón, señor, desconecto la comunicación. On vous demande pardon, monsieur, mais on va couper la communication. Donc il y a simplement deux trois phrases comme ça qui sont enregistrées.
Mais pourquoi toujours des Espagnols? Pourquoi est-ce qu'ils s'adressent toujours aux Espagnols?
Mais parce que c'est ceux qui ont parlé. Les Espagnols sont très bavards. Vous savez, quand il y a eu les premiers articles, bon, il faut lire le livre parce que c'est plein d'anecdotes cette histoire-là. Disons que les premiers contactés, c'est un type qui s'appelait Sesma, et un jour il a reçu un coup de téléphone de gens qui disent on vient d'une autre planète. Alors Sesma a dit, écoutez, j'ai les Martiens mardi, les Vénusiens vendredi, est-ce que mercredi en 8 ça vous irait, quoi? C'était un ésotériste, pour lui c'était une chose tout à fait normale, quoi. Alors, il a commencé à recevoir un flot de documents, et dans un de ces documents, il était annoncé que dans les jours qui suivaient, il y avait un véhicule qui allait venir et se poser dans la région de Madrid. Alors ils ont enregistré ça comme une espèce de truc de routine. Et il y a eu effectivement à San José de Valderas, c'est un cas d'OVNI assez célèbre avec des traces et tout. Alors ça crée une panique complète dans ce petit système.
Mais bon, ces humites, ils sont une nationalité d'extraterrestres parmi d'autres, ou ils sont celles à laquelle on est le plus souvent confronté quand on s'intéresse à ça?
Mais là, on peut comprendre, on ne peut apprécier ce truc-là que de l'intérieur. Ces braves gens disent, on n'est pas les seuls à venir, il y en a des tas, mais au moins, eux, ils sont montrables. Vous voyez, ils sont suffisamment proches de l'espèce humaine pour pouvoir se promener tranquillement dans un prise unique.
Alors vous dites qu'il y en a. Il y a monsieur Lachance, il nous disait que, par exemple, on les reconnaissait quand ils pesaient sur les boutons d'ascenseur, ils ne pesaient pas avec le bout de leurs doigts. Enfin, il y avait tout.
Vous savez, tout ça, c'est l'aspect, comme on pourrait dire, folklorique, anecdotique.
C'est vraiment que c'est amusant. Mais...
Moi, je suis un scientifique. Alors, dans tout ce flot comme ça, j'ai pris toute cette partie science, et puis je me suis pesé dessus, là, et j'ai essayé d'en faire des choses solides. Et quand je suis arrivé à des choses qui étaient vraiment incontestables, qui étaient de très haut niveau, au niveau relativité générale, je me suis dit, là, je peux parler. Alors, évidemment, je vois des réactions de scientifiques français et même canadiens qui me disent, personne conteste la qualité de votre travail, c'est très très bon. Mais pourquoi est-ce que vous dites que ça vient des extraterrestres? Mais je réponds, mais parce que c'est vrai, nom d'une pipe. J'avais des informations assez précises, et sans ça, j'aurais pas fait ce boulot.
Vous, ce qui vous fait penser que c'est vrai, c'est qu'ils vous transmettent des informations qui dépassent le savoir humain. Mais ça pourrait être un super cerveau.
Oui, mais regardez par exemple, il y a des gens qui disent oui, mais ce travail que vous avez fait, vous auriez pu le reconstruire à partir d'une argumentation rationnelle, etc. Je dis ok, je vais vous parler du travail que je suis en train de faire en ce moment, il n'est pas achevé. Et ce travail, il provient d'une conversation entre un type qui s'appelle Dominguez, qui est ingénieur à Madrid, avec un type qui prétend qu'il vient d'ailleurs. Et qu'est-ce que dit ce bonhomme? Il dit les trous noirs n'existent pas. Lorsqu'une étoile à neutrons atteint une masse critique, sa masse est transférée brutalement dans la structure gemellaire. Et ça, aucun scientifique dit ça.
Ah oui, bah expliquez-moi ça. J'ai lu l'article sur vous dans la presse, là, où on parlait de la possibilité de monde double et jumeaux.
Alors ça, j'ai trouvé ça dans ces documents, et ça date de 1966. C'est pour ça que l'argument qui consiste à dire vous avez beaucoup d'imagination, vous avez imaginé des choses comme ça. Pas du tout. Je me sers d'informations qui ont été publiées dans un bouquin qui était édité en 67, à l'époque où j'étais étudiant. Alors je ne pouvais pas, étant étudiant, éditer ce livre sous un faux nom, diffuser des informations en me disant je vais m'en servir dans 20 ans quand je serai chercheur.
Ouais.
Alors dans ces informations-là, il y avait des informations sur la structure de l'univers. On expliquait que l'univers avait deux feuillets, deux versants, et que dans le deuxième versant, la flèche du temps s'écoulait à l'envers. Alors ça, c'est une chose difficile à imaginer, même pour un scientifique. Et ensuite, là, vous avez un papier, et voilà l'exemple de ces textes. Et vous voyez ici une information qui était sur l'énantiomorphie, sur la structure en miroir de cet univers. Voilà à quoi ça ressemble, ces documents-là. Voilà sur quoi j'ai travaillé. Bon. Et moi, j'ai commencé un petit peu à bricoler ça. J'ai fait des premiers travaux en 77 dans une certaine indifférence. Et après, j'ai constaté qu'en 83, que le type qui avait travaillé dans le même mot, c'était Andrei Sakharov. C'était assez plaisant pour moi.
Sakharov, oui.
Andrei Sakharov. Mmh. Et on est les deux seuls à avoir travaillé là-dessus. Maintenant, il y a un peu le mathématicien Alain Cohn en France qui commence à bricoler un petit peu dans ces eaux-là, dans cette structure double de l'univers.
Donc, il y aurait double, ça veut dire que les choses seraient un double. Mais on serait un double.
Non, il y a un recto et un verso. Si vous voulez, quand vous êtes dans une pièce comme ça, dans un studio de radio, s'il y a des miroirs, vous voyez votre image de l'autre côté. Oui. Vous n'allez pas dire que vous êtes plus réel que l'image. Il n'y a pas une deuxième personne, c'est toujours vous-même. Bon, l'univers, il a une image en miroir, c'est pas tout temporel. Et ça, c'est une image tout à fait passionnante. Alors évidemment, il faut des mathématiques pour rentrer là-dedans. Oui. Mais je peux vous dire que c'est drôlement sophistiqué.
Les humites, là, ils habitent une planète qui s'appelle Humo. C'est ça?
C'est ce qu'ils disent, oui. C'est ce
et
qu'ils
où
disent.
On la voit, là, avec les... Vous travaillez à l'Observatoire de Marseille, on la regarde?
Je crois qu'on ne la voit pas de notre hémisphère. Elle est dans la constellation de la Vierge, et puis elle est à 15 années-lumière, et l'étoile n'est pas très brillante, donc vous ne la verrez pas à l'œil nu. On ne peut pas sortir ce soir en disant, on doit voir cette planète. Vous savez, les étoiles qu'on voit, c'est des étoiles souvent très brillantes, qui sont très chaudes, hein. Les petites étoiles, on ne les voit pas. Ouais. On les découvre seulement avec le télescope.